As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager. Customers are rushing to your store. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. Shopify.com/theathletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par Athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine.
Salut, alors on est mercredi 1er décembre, la journée officielle de la libération du stationnement. Hein? Alors à compter de maintenant, ben, on peut se stationner quand on veut, où on veut à Montréal, c'est bien. Mais on ne restera pas parqué ici très très longtemps, toi et moi, parce qu'aujourd'hui on a quand même une grosse émission. Il y a évidemment... Dans la foulée du congédiement de Marc Bergevin, de l'embauche de Jeff Gorton, il y a Jeff Molson qui a adressé la parole aux médias lundi, longuement, pas loin d'une heure. Puis il y a beaucoup de choses. J'aimerais ça qu'on retourne sur certains éléments, qu'on revienne sur certains éléments dont il a été question durant cette conférence de presse-là. D'abord et avant tout, peut-être aujourd'hui, on va parler de la possibilité que le Canadien procède à une reconstruction parce que Jeff Molson n'a pas du tout semblé effrayé, du moins c'est ce qu'il a dit, par l'idée d'une reconstruction, qui une décision cependant qu'il semble laisser dans la cour de Jeff Gorton et du prochain directeur général.
Oui. Dans le fond, je pense que c'était dans l'optique où... Tu sais, une autre chose que Jeff Molson a dit fortement, c'est qu'il ne se mêle pas dans la décision hockey. Soit lui, son rôle... c'est d'engager du monde qui va gérer tous les aspects hockey de l'équipe. C'est une de ses forces comme propriétaire, en fait, le fait qu'il donne le champ libre au DG. Puis je pense qu'il a très bien dit dans le sens où son rôle, sa job, c'est de supporter le dirigeant hockey jusqu'à temps qu'il n'est plus capable de supporter. Alors, c'est ça qui était rendu à ce moment-là avec Marc Bergevin, évidemment. Je pense que son tolérance pour être capable de supporter la personne qui gère les opérations hockey est quand même assez grande. On l'a vu en 2018, qui a toléré beaucoup de la part de Marc Bergevin. Il y a quand même une saison d'enfer. Je pense que la grande majorité des propriétaires de la Ligue nationale auraient congédié son directeur général après une saison comme ça. Jeff Molson ne l'a pas fait. Là, c'était rendu un peu trop. Puis évidemment, il n'y avait pas de contrat pour Marc Bergevin la saison prochaine anyway. Alors là, il faut croire que Jeff Quartin va avoir ce même latitude-là, ce même possibilité-là d'avoir la confiance du propriétaire, du président de l'équipe pour faire ce que lui veut faire. Alors, le fait qu'il n'y a pas de DG en ce moment, il y a juste Jeff Quartin, qui est vice-président exécutif des opérations hockey, qui prend un moitié de l'ancien titre de Marc Bergevin, suggère au moins pour l'instant, évidemment, que c'est Jeff Quartin qui va un peu dessiner les plans de comment le Canadien va gérer la première étape d'un retour à un niveau qui est acceptable, qui est compétitif. Alors, tu sais, je pense, la question a été posée plusieurs fois à Jeff Molson, puis finalement, je pense qu'après la troisième fois, il a dit « Écoute, j'ai pas peur de ce mot-là, mais je pense pas qu'il disait que je suis ouvert ou je veux ça. » Tu sais, je pense que beaucoup de personnes ont pris cette citation-là comme étant un message de la part de Jeff Molson que oui, c'est ça que je veux. Mm-hmm. Mais c'est pas ça qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est que si le gars que je viens d'engager pour diriger les opérations hockey du Canadien de Montréal, si lui, il pense qu'on a besoin d'une reconstruction totale, ben là, je vais le supporter dans cette démarche-là.
Ben, je vois pas pourquoi quelqu'un aurait pas compris, aurait compris autre chose que ce que tu viens de dire.
Parce que quand tu écoutes juste le soundbite, quand tu écoutes juste l'extrait sonore, je veux dire, et entendre Jeff Molson dire « j'ai pas peur de ce mot-là », puis je pense pas que nos partisans ont peur de ce mot-là non plus. Si tu entends ça sans contexte et sans, tu sais, juste comme une citation ou juste comme un extrait sonore, ça peut laisser suggérer que Jeff Molson est très ouvert à cette idée-là, puis qu'effectivement, que c'est ça sa préférence. Mais tandis que... Alors, je dis ça juste pour dire que c'était quand même... Ça a pris trois fois qu'il s'est fait demander la question avant qu'il réponde comme ça. Mm-hmm. Alors, je pense pas que c'est quelque chose que Jeff Molson a hâte d'entamer en ce moment. Là. C'est pour dire que il y aura deux, trois, peut-être même quatre saisons difficiles à Montréal avant d'être capable d'avoir une équipe qui peut espérer aux grands honneurs. Je pense que ça serait faux de dire que c'est quelque chose que Jeff Molson souhaite. C'est juste mon point. Ça.
Non, puis d'autant plus que, tu sais, pour un actionnaire majoritaire, un actionnaire de contrôle d'une équipe, l'idée de se lancer dans une reconstruction qui entraînerait des pertes de revenus, potentiellement, tu sais, un Centre Bell moins fréquenté, c'est probablement, tu sais, moins de gens aussi qui écouteraient à la télévision. Il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte. Au strict plan financier, il y a un investissement, il y a des pertes qu'il faut être prêt à accepter, tu sais. Cela étant dit, l'argument contraire pourrait être de dire, ben ça fait tellement longtemps que le Canadien patauge entre deux eaux, qui sont en le milieu de peloton, mais qui ne donnent jamais l'impression d'être une équipe qui s'améliore suffisamment pour passer dans le premier tiers des équipes de la Ligue nationale, ce qui était, je crois, l'objectif de Pierre Gauthier à l'époque, de dire on va se placer dans le premier tiers.
Dans le premier tiers, ouais.
Ouais, puis là, ça fait 12 ans, puis c'est toujours pas le cas. Mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que peut-être que si tu persistes, là, si tu fais de l'acharnement thérapeutique sur cette formation-là, ben c'est peut-être une autre façon de désillusionner les amateurs, puis qu'eux se disent, ben reconstruction ou non, ben je vais me désengager par rapport à l'équipe, je vais arrêter de me rendre au Centre Bell ou de l'écouter, etc., puis vous me reviendrez me voir, vous me solliciterez de nouveau une fois que vous serez redevenu véritablement compétitif. Fait que ça peut apparaître comme étant une pilule plus dure à avaler, mais en même temps, il y a comme une espèce de supplice de la goutte que plus qu'une génération de partisans ont vécu, là, c'est-à-dire depuis la Coupe Stanley de 93.
Oui. T'sais, en fait, c'est un peu ça la question qu'il y a toujours. T'sais, le Canadien, la raison pour laquelle ce que Jeff Molson a dit a pris tellement d'ampleur après la conférence de presse, c'est parce que le message du Canadien de Montréal depuis longtemps, Marc Bergevin l'a dit plusieurs fois, même Jeff Molson l'a dit par le passé, que les partisans du Canadien accepteraient jamais une reconstruction totale. Les partisans du Canadien accepteraient jamais que le Canadien soit pas en train de au moins tenter, au moins essayer de remporter la Coupe Stanley année après année. Alors, ça, c'était la philosophie, ça, c'était le message du Canadien depuis longtemps, puis je pense que c'est pour ça que la citation de Jeff, quand il a dit que j'ai pas peur de ce mot-là, c'était la première fois que quelqu'un du Canadien disait ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de clarifier ou juste de remettre les pendules à l'heure un peu, que dire que c'était pas Jeff Molson en train de réclamer une reconstruction totale. Il faut être clair là-dessus. Mais le fait simple qu'il accepterait que ça soit une option ou que ça soit quelque chose que le Canadien doit faire, ça déjà, c'est quelque chose. Ça c'est déjà un changement du passé. Puis je pense qu'au fil des ans, Jeff Molson lui-même a probablement vu que oui, peut-être c'est un peu difficile de faire un reset ou d'essayer de rester compétitive en bâtissant en même temps une équipe qui peut espérer dans le premier tiers ou même se rendre en finale. Et c'est ça que ça, l'autre aspect de tout ça, c'est que c'est quand même une équipe qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley il y a quelques mois. C'est pas exactement la même équipe, on s'entend. Philippe Deneau n'est pas là, Shea Weber n'est pas là, Carey Price n'est pas encore là. Mais je trouve que c'est ça, c'est que depuis cette citation-là, tout le monde parle d'une reconstruction comme si c'est ce que Jeff Gorton va faire. Puis écoute, on va lui parler vendredi matin à un moment donné. Il est arrivé au bureau du Canadien aujourd'hui, mercredi. Il n'était pas arrivé encore quand on parlait de Dominique Ducharme ce matin. Mais on ne sait pas si Jeff Gorton va prendre ce chemin-là. Juste parce qu'il l'a fait avec les Rangers de New York, ça ne veut pas dire que c'est exactement la même situation à Montréal. Non. Et effectivement, ça ne l'est pas. Parce que il n'y a pas une tonne de vétérans que Jeff Gorton peut échanger dans l'espace d'un an comme il l'a fait à New York. Tu sais, à New York, Ryan McDonagh, JT Miller, Matt Zuccarello, Rick Nash, évidemment, c'était joueur de location, mais ça m'échappe. Michael Grabner, il y en avait plusieurs vétérans qui ont sorti de New York d'une année à l'autre. Tu sais, en fait, l'année de, c'était 2018, dans le fond, le fameux lettre, en février, dans l'espace de 2 mois, il y avait comme 4 gars qui est parti. Le prochain date limite de transaction, il y avait Zuccarello puis d'autres qui sont partis. Alors, il y avait cette possibilité-là avec les Rangers parce qu'il y avait des contrats qui venaient à échéance. Alors, ça pouvait se faire. C'est pas tout à fait, en fait, c'est pas du tout le cas du Canadien. En fait, c'est le cas opposé avec le Canadien. Il y a beaucoup de contrats qui restent beaucoup d'années et beaucoup d'argent qui, dans cet environnement-là où il y a peu ou pas d'équipes qui ont beaucoup de lousse en termes d'argent, qui pourraient accepter ces contrats-là pour des choix au repêchage ou pour des jeunes, particulièrement quand tu ajoutes le fait que pas tous les gars duquel on parle sont vraiment des joueurs de premier plan, des joueurs vraiment que tu peux définitivement mettre sur ton premier trio, ton premier paire de défenseurs. Alors, c'est une situation qui est différente de celui que Gorton a géré à New York. Mais, tu sais, laisse-lui le temps de au moins nous exprimer ce qu'il pense là-dessus, parce que je pense que ce que Jeff Molson a rendu clair lundi, c'est que ce que Jeff Gorton pense de ça, c'est ce que moi, je vais penser aussi.
Ouais, mais je me pose la question à savoir dans quelle mesure, au moment de faire une approche auprès de Gorton, puis au moment où ils ont vu s'ils avaient des atomes crochus, si Gorton allait se retrouver dans un environnement dans lequel il allait être à l'aise de travailler. Je me demande à quel point Gorton a dû faire son premier pitch auprès de Molson puis lui dire franchement ce qu'il pensait de cette équipe-là. T'sais. Parce que je pense qu'on lui a identifié des qualités. Je pense que c'est un très, très bon dirigeant de hockey puis je pense que c'est une bonne prise pour le Canadien d'avoir mis la main sur ce dirigeant-là. Mais est-ce que Jeff Molson l'a embauché en sachant très bien où Gorton comptait s'en aller. Parce que là, il a entretenu un peu le flou en disant ben ça va dépendre aussi du directeur général qui va être embauché, puis il va y avoir des conversations, puis on verra en temps et lieu. Mais il doit bien savoir un peu là où Gorton compte s'en aller déjà.
Oui, oui, absolument. Alors, c'est pour ça que le fait que ça a pris autant de temps pour Jeff Molson d'avouer qu'il n'a pas peur du mot reconstruction, quand il avait été demandé quelques fois avant, ça me fait penser que peut-être ça faisait pas partie des plans. Parce que c'est certain, tu sais, Jeff Molson, premièrement, il va falloir tout le temps dire Jeff Molson et Jeff Gorton
ouais.
pour les prochaines années, ce qui est plate. Mais quand Jeff Molson a raconté que il y a une couple de semaines, quand il est allé à New York pour rencontrer Jeff Gorton, puis qu'il y a une bonne rencontre, c'est sûr que Jeff Gorton s'est préparé pour ce rendez-vous-là, puis c'est certain qu'il a partagé des idées de ce qui pourrait se passer avec cette équipe-là. Moi, j'ai hâte de l'entendre de la part de Jeff Gorton lui-même, mais je suis sûr que Jeff Molson est au courant. Puis, alors, c'est ça que je dis, c'est que je pense pas que... Je pense que cette citation-là a pris un peu plus d'ampleur que ça aurait dû peut-être prendre. C'est juste mon point, parce que je pense que oui, t'as raison. Jeff Molson doit avoir une idée en général de comment Jeff Gorton voit cette équipe-là. Mm-hmm. Il doit. Sinon, tu
l'engages pas. Sinon, il l'a embauché à l'aveugle.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il ferait pas. Dans le fond, ouais. Ça se peut pas qu'il est allé rencontrer Jeff Gorton et Jeff Gorton n'a rien dit sur la formation actuelle du Canadien, puis où il peut se rendre dans un avenir rapproché 2, 3, 4 ans. C'est impossible. C'est standard dans les entrevues pour des postes de DG, même si c'est pas un DG techniquement, mais pour des postes de quelqu'un qui mène un département d'opération hockey. Cette vision-là, et ça fait partie de... En fait, c'est la principale partie de cette entrevue-là, c'est ça. Alors, il doit avoir une idée, là.
Écoute, on va revenir un peu plus tard en parlant des joueurs et de l'impact que pourrait avoir une possible reconstruction. Encore là, c'est pas certain que c'est là que ça va aller. Mais avant, j'aimerais ça t'entendre sur l'idée même d'avoir changé la structure de direction de l'équipe. Tout le monde est au courant, Jeff Molson qui décide donc de, au lieu d'avoir strictement un directeur général qui centralise tous les pouvoirs, ben on le répartit en ayant un vice-président exécutif aux opérations hockey et un directeur général. Un peu un genre de direction à deux têtes, mais en même temps qui semble clairement donner une forme de préséance à Gorton, qui est un homme d'expérience, un homme qui va être à même aussi de pouvoir passer son savoir à un directeur général qui pourrait être moins expérimenté, qui pourrait donner l'occasion aux Canadiens peut-être de développer, c'est comme dans le cas des joueurs de hockey, de développer à l'échelle de la Ligue nationale un dirigeant plus local, si c'est ce qu'il décide de faire. Moi, ça m'a, je te le dis, la manière dont les choses ont été présentées, je me dis qu'un directeur général aguerri ne pourrait pas regarder la situation du Canadien de Montréal et dire hey, « ça, c'est pour moi ». Parce que si tu vas avoir les coups des franges puis avoir les deux mains sur le volant, je ne suis pas certain que Jeff Gorton, là où il est rendu dans sa carrière, où il n'est pas dans une position où il va vouloir être une éminence grise à la Brian Burke avec les Penguins de Pittsburgh, par exemple. Je pense qu'il est à une étape de sa carrière où il veut encore être un décideur. Je pense pas que pour un gars qui a un DG d'expérience, il regarderait la position, le poste qui est ouvert à moyen en se disant « ça, c'est pour moi ». Parce qu'il y a une part de compromis, de travail d'équipe qui va devoir être faite. Par contre, ça garde quand même la porte ouverte à plusieurs candidatures intéressantes pour pouvoir pour qu'une personne peut-être qui puisse faire la main puis dire ben j'ai eu mon premier poste de directeur général avec le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale, puis à partir de là ben écoute sky is the limit. Fait que c'est quand même, je trouve ça intéressant, puis je trouve que ça a été accueilli par exemple avec beaucoup de scepticisme autour.
Ben oui, c'est clair, parce que dans le fond c'est quelque chose qui se fait pas dans la Ligue nationale de hockey, tu sais, c'est comme... Je pense que la question, c'est que si quelqu'un veut faire un échange avec le Canadien, c'est qui l'appelle?
Ouais.
Tu sais, c'est quel numéro que tu mets dans ton téléphone? À mon avis, c'est quand même assez évident que la personne à appeler, c'est Jeff Corton. Peu importe ce qui est engagé comme DG pour l'instant et pour les années à venir, des 1, 2, peut-être même 3 ans. Mm. Ce qui fait en sorte que le poste de DG, ça ne l'est pas vraiment un poste de DG. T'sais, alors, c'est
comme DG adjoint, hein? Un peu, hein? On dit,
c'est un peu comme DG adjoint, puis effectivement, le gars qui va être DG du Canadien, pour le moment, ça va être un peu plus de responsabilité, je pense, et un peu plus de pouvoir qu'un DG adjoint normal. Mais ça reste que... c'est quelque chose que Jeff Corton va devoir dire ça clairement vendredi. Mm. Si le Canadien avait un département de communication, ils en ont un, mais tu sais, s'il y avait une stratégie pour sa première conférence de presse avec les médias à Montréal vendredi, une chose que je dirais à Jeff Corton de faire de façon la plus claire possible, ça serait à quel point comment les décisions vont être prises pour cette équipe, parce que c'est ça la question autour de la Ligue nationale aujourd'hui, depuis la conférence de presse de Jeff Molson, c'est qui prend les décisions, parce que c'est impensable que une équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey n'a pas une personne qui prend ces décisions-là. Pourtant, dans le monde des affaires, dans le monde en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de décentraliser la prise de décision. C'est d'avoir le plus de perspectives possibles dans les prises de décision. Jeff Molson a parlé d'ajouter au niveau de diversité de son équipe, au niveau d'opération hockey. C'est aussi quelque chose qu'on est en train de voir dans le monde des affaires de plus en plus, c'est d'ajouter le plus de perspectives différentes possibles pour éventuellement se rendre à la meilleure décision possible. Pour être certain qu'il n'y a pas un côté qu'on oublie ou qu'on ne voit pas, ou le plus d'idées que tu peux inclure dans le processus de prise de décision, le mieux c'est. Mmh. Alors, peut-être que le Canadien va être capable de fonctionner comme ça. Peut-être que... Et honnêtement, là, c'est comme ça que Marc Bergevin fonctionnait aussi. Là. T'sais, Scott Mellanby avait beaucoup d'influence sur Marc Bergevin. John Sedgwick l'avait aussi du côté financier et du côté planification de la masse salariale pour les années à venir. Martin Lapointe avait beaucoup d'influence sur ce que Marc Bergevin faisait, mais finalement, évidemment, la décision revenait à Marc Bergevin. Et c'est ça l'évidence de la situation qu'ils décrivent, c'est que, oui, peut-être que beaucoup de personnes vont avoir beaucoup d'influence sur les décisions, mais on va se pas. En tout cas, à mon opinion, au moins, c'est quand même assez évident que c'est Jeff Corton qui va avoir la responsabilité de prendre la décision finale, même si Jeff Molson dit que finalement, ça revient à la DG de vivre avec et d'être imputable pour les décisions qui sont prises. Là, c'est difficile à voir comment ça va fonctionner de cette façon-là.
Moi, ce bout-là m'a un petit peu chicoté parce que c'est comme si, d'une certaine manière, Gorton est probablement celui qui est en haut de la sphère d'influence dans l'état-major de l'équipe. Mais en même temps, si c'est le directeur général qui est le premier imputable sous prétexte qu'il a, en guillemets, pris la décision finale, puis que les choses tournent mal, ben c'est le DG qui est envoyé au bûcher bien avant le vice-président aux opérations hockey. Fait que c'est quand même le fun parce que c'était pas... D'un côté, t'es l'homme de confiance, t'es celui à qui on remet les clés de la voiture, mais en même temps, s'il y a un accident, c'est pas toi qui paye la prime d'assurance. Je sais pas. Je trouve que c'est... Je comprends. Gorton était un gars qui était vraiment courtisé par je pense qu'il était dans la ligne de mire de plusieurs équipes qui pensaient faire des changements au niveau de leur personnel de direction. Il a choisi de venir avec le Canadien, mais il fallait que ce soit une situation qui soit avantageuse pour lui, puis j'ai l'impression que ça fait partie des éléments qui sont favorables pour lui, tout comme le fait que, étant donné qu'il y a cette condition établie par le Canadien comme quoi directeur général doit être bilingue, et que cette personne-là risque de passer plus de temps devant les médias que Gorton lui-même, ben lui qui est un type plus réservé, de se retrouver devant les caméras, c'est pas trop son fort, ben encore là, c'est intéressant, parce qu'il y a une personne qui va être davantage le porte-parole, davantage l'image publique. Et lui, il va pouvoir rester un petit peu plus en retrait, fait que ça va correspondre davantage peut-être à ce qu'il est puis à ce qu'il recherche aussi.
Oui, mais ce qui me chicote là-dedans, c'est que déjà, on parle... T'as une banque de candidats qui est limitée par ce critère-là qu'il faut être bilingue.
Ouais.
Là, je trouve que d'une certaine manière, tu limites encore plus parce que les peu de candidats qui existent, qui peuvent aspirer à un poste de DG déjà dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup qui a assez d'expérience, qui a assez vécu pour être des candidats légitimes, puis qui ne seraient pas vraiment des candidats dans d'autres villes. On va pas se le cacher. T'sais. On parle de Daniel Brière comme candidat, comme pour DG du Canadien. Il y a pas une autre équipe de la Ligue nationale qui considérait la possibilité de mettre Daniel Brière comme directeur général de leur équipe. Ceci étant dit, le cas de Daniel Brière est parfait parce que c'est un gars qui est très confortable avec les médias, il s'exprime super bien, c'est un gars super intelligent, ça fait longtemps qu'il travaille dans le domaine de hockey en espérant un jour devenir un DG. C'est un gars allumé et c'est un gars qui pourrait remplir ce rôle-là, ce rôle spécifique-là où t'es quelqu'un qui contribue aux décisions de hockey, mais t'es le gars qui est demandé d'aller expliquer ça aux partisans puis aux médias puis tout le monde. Quelque chose qui est très confortable à faire, là, il devient un candidat très intéressant parce qu'il pourrait se développer et devenir quelqu'un qui peut légitimement être le DG du Canadien ou prendre plus de place au fur et à mesure que les années passent. Là. C'est quelqu'un qui peut se développer dans ce rôle-là sous Jeff Courtin, qu'il connaît déjà, mm-hmm. Puis qui a formé effectivement l'ami de Brière, le gars avec qui il a joué... peut-être ses meilleures années en carrière à Buffalo, ou une partie des meilleures années de sa carrière à Buffalo, qui est maintenant DG des Rangers. Alors peut-être qu'il pourrait avoir le même cheminement que lui. Mais d'une autre façon, quand tu penses à des gars, tu penses à quelqu'un comme Mathieu Darche, que tout le monde va évidemment en parler parce qu'il a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay. Il travaille étroitement avec Julien Brisebois. Puis... je pense que tout le monde qui a à dealer avec lui s'entend pour dire que c'est un gars qui a un bel avenir dans la Ligue nationale comme dirigeant. Mais pour lui, il est déjà un directeur général adjoint dans une situation qui est très favorable. Et pour lui, est-ce que lui, ça lui tente de quitter où il est pour venir à Montréal pour devenir un DG, mais pas vraiment être un DG, ça, je suis pas certain. Alors, tu sais, cette structure-là peut attirer un type de candidat, mais peut repousser un autre type de candidat.
Ouais.
Et alors, c'est ça qui est... Quand tu travailles pas avec... quand tu travailles avec un bassin de candidats très restreint, avoir une structure qui limite certains de ces très peu de candidats-là, c'est un peu dangereux.
Ben, ça... l'effet domino que ça provoque aussi, c'est que ça augmente le pouvoir décisionnel de Jeff Gorton. Son influence est encore plus grande parce qu'il sera pas accompagné d'une personne qui est justement un poids lourd nécessairement dans le milieu du hockey. Ça va être quelqu'un qui sera passé dans le tamis de non pas un, mais deux critères maintenant qui font en sorte que le bassin est entre guillemets affaibli par ce que le Canadien recherche. T'sais. Fait que nécessairement, ben lui, il va falloir. La balle va se retrouver d'autant plus dans son camp. T'sais. Fait que pour revenir à ton point tout à l'heure, disait s'il y a des discussions pour une transaction, est-ce que le Canadien. Est-ce qu'une équipe appelle Jeff Gorton ou ils appellent Daniel Brière? Et c'est ça. J'aurais tendance à croire aussi que ça va être Gorton.
Ouais. Je pense que... Puis honnêtement, Jeff Molson a pris beaucoup de temps pour expliquer ça, puis je trouve qu'il a bien fait lundi. Il faut le dire, là. Tout le monde réclamait que Jeff Molson dit quelque chose. Puis il est sorti lundi, puis je pense qu'il a bien expliqué sa position, il a bien expliqué où il se trouve là-dedans, puis pourquoi il est allé avec Jeff Courtin. Je pense qu'il y avait beaucoup de questions sur la structure, sur toute cette nouvelle chose. Et il avait l'air d'un gars que tu sais, il était enthousiaste de voir comment ça va fonctionner. Puis je pense que le message qu'il a envoyé, la façon qu'il l'a envoyé, la façon qu'il a communiqué, la confiance avec laquelle il a parlé, c'était une bonne chose. Et félicitations, parce que honnêtement, je pense que la pression sur Jeff Molson était rendue à son plus haut point, peut-être dans son temps comme propriétaire, mais sinon très proche. Là, et je trouve qu'il a bien performé. Dans le fond, c'est une performance quand tu fais une conférence de presse pendant une heure, quand tu es le chef du Canadien. Mais deux choses qu'il a introduites, tu sais, beaucoup des choses duquel il parlait, puis duquel les questions étaient demandées, sont des choses qu'on savait déjà, on savait dans le communiqué. On savait que Jeff Quartin s'en venait, on savait qu'il y aurait un DG bilingue, on savait beaucoup de choses dans le communiqué elle-même. Deux choses qui n'étaient pas dans ce communiqué-là que Jeff Molson nous a appris, c'est que A, il va chercher à améliorer la diversité dans le département d'opérations hockey, ce qui veut dire nécessairement des personnes de couleur ou des femmes ou juste différentes perspectives qu'il voulait, puis il a dit que c'était une priorité pour l'organisation. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je trouve très allumée et très, très avant-garde et très intelligent, c'est de créer cette priorité dans le département médical sur la santé mentale, le bien-être des athlètes, leurs besoins hors du glace pour être capable de gérer le marché ici. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose que le Canadien, je ne veux pas dire que ça fait défaut chez le Canadien, mais je pense que souvent, on a laissé les joueurs à eux-mêmes de gérer un peu leur situation unique à Montréal. T'sais, c'est comme, c'est pas vraiment, c'est un grand marché de hockey, mais c'est le seul vraiment grand marché de hockey où il n'y a vraiment aucun autre sport. T'sais, c'est comme Toronto, Chicago, Boston, New York, toutes ces équipes-là, ils partagent le marché avec d'autres sports. Montréal, c'est pas le cas. Alors, je trouvais ça intelligent, puis je trouvais ça, tu sais, quand Jeff Molson a dit que, tu sais, qu'il croit fermement que cet aspect-là va être une grande partie du succès du Canadien dans les années à venir, je pense qu'il est à 100% raison. Et j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, comment ils vont faire ça. Mais je trouvais que c'était deux annonces qui étaient rafraîchissantes d'entendre du propriétaire du Canadien, puis qui étaient des bonnes idées, qu'il introduit ces deux choses-là dans les priorités de l'organisation.
Oui, absolument. C'est vrai que c'est une décision qui est avant-gardiste, puis c'est bon que ça ait été, que ce soit une initiative à 100%, puis que ce soit pas quelque chose qui soit récupéré parce que c'est dans le vent, parce que ça a flotté dans les médias, puis lui il prend au bon. Ça a l'air de, tu sais, c'est clairement une initiative personnelle. Puis tu sais, hier j'écoutais une entrevue avec Max Pacioretty, qui était invité sur une balado, et puis il disait à l'époque, quand j'ai grandi dans l'organisation du Canadien, j'ai vécu là, c'était mon quotidien d'avoir cette pression-là, puis d'avoir, de trouver que quand il y a des défaites, ben, le temps est gris, puis on trouve que le climat est moins bon, qu'il y a plus de trafic qu'ailleurs, etc., puis ça devient pesant, on se fait poser des questions sur des séquences de 3 défaites, etc., puis c'est quand tu en sors, puis que tu vas jouer ailleurs, que tu réalises à quel point les choses peuvent être autrement. Et tu peux vivre ta carrière de joueur de hockey autrement que dans cette espèce de bulle-là. Alors, lui, il l'a réalisé parce qu'il a commencé sa carrière à Montréal, puis il a vécu autre chose après, ce qui est une façon de voir les choses. Mais tu as ceux aussi qui arrivent de l'extérieur, puis qui, eux, entrent dans la bulle de Montréal, justement, puis pour qui c'est un choc de vivre ça au quotidien. Et je pense que c'est tout à fait à propos de la part de Jeff Molson de dire « OK, Si on prend conscience que notre marché crée une bulle particulière pour les joueurs qui rend ça très difficile à gérer, plus difficile qu'ailleurs, c'est un facteur qui devient incontournable. Puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de Max Pacioretty. J'ai en tête des propos, entre autres, de Craig Rivet qui en avait parlé à la suite de son départ de Montréal. Puis ils ont été nombreux à dire ça. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'approcher la question puis de dire « OK, on peut pas changer la passion des partisans. On ne peut pas changer le niveau d'intérêt que les médias vont avoir envers l'équipe. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'équipe? Ce qui est sous le contrôle de l'équipe, c'est la façon dont l'organisation peut épauler ses joueurs pour qu'ils puissent être mieux équipés pour faire face à tout cet environnement-là. Puis je pense que ça va pas en diminuant avec les années, ça devient de plus en plus lourd, potentiellement de plus en plus étouffant. Alors, c'est tout à fait pertinent que le Canadien s'y attaque. Il a mentionné le nom de 3 médecins qui sont les médecins en chef de l'organisation, entre autres, donc monsieur, évidemment, David Mulder, monsieur Deckelbaum et puis docteur Harvey, je crois. Il a pas mentionné le psychologue sportif de l'équipe, docteur Scott, qui lui est dans l'organisation aussi depuis quelques années. Je sais pas si c'était volontaire ou non, mais c'est clair que les psychologues sportifs, le ou les psychologues sportifs qui vont être là devront être un élément fondamental de cette initiative-là. Fait que j'ai bien hâte de voir où ça va s'en aller.
Mais en fait, et je pense que ce qui est important, c'est que on parle pas juste de psychologie du sportif. Tu sais, c'est comme la psychologie sportive, oui, c'est important pour les athlètes, évidemment. Mais ça concerne leur performance sur la glace et la façon qu'ils peuvent se préparer mentalement pour bien performer sur la glace. Je pense que l'autre aspect, qui est peut-être un peu moins vu par les équipes, c'est juste la santé mentale générale des joueurs. Tu sais, honnêtement, de ne pas faire le lien nécessairement avec leur performance sur la glace, mais juste comment est-ce qu'ils vont. Tu sais, comment est-ce que tu vas au jour le jour? Comment est-ce que les pressions qui sont peut-être uniques à Montréal et peut-être d'autres qui ne sont pas uniques à Montréal, mais sont uniques aux athlètes professionnels en général. Comment est-ce que vous gérez ça? Quels sont vos problèmes? Comment est-ce qu'on peut aider? Tu sais, c'est pour ça que j'ai hâte de voir c'est quoi le résultat de cette initiative-là. Parce que c'est une bonne chose. Tu sais, j'y pense souvent. Tu sais, j'entends Drouin, on a demandé de lui parler mardi, alors le jour après que Jeff Monson a fait son annonce, puis effectivement, pour lui demander un peu qu'est-ce que t'en penses, tu sais, pour un gars qui a quitté l'équipe puis qui a manqué un parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley, à quel point il avait besoin du temps pour gérer et de se mettre en santé, dans le fond, là, à quel point c'était important pour lui. Alors, lui, c'était, tu sais, je pense qu'il voyait ça d'un bon oeil, puis, mais il se demandait, tu sais, il se faisait demander, est-ce qu'on aurait pu prévenir ce qui lui est arrivé si ce département-là ou si cette priorité-là existait avant?
Ouais.
Puis lui a dit non, tu sais, moi, j'étais en déni moi-même, tu sais, je voulais pas admettre que j'avais besoin de l'aide et c'est ça que ça prend. Alors, quand t'es pas capable d'admettre que t'as besoin de l'aide, tu vas jamais en chercher. Alors, je vois pas comment j'aurais admis ça si, juste en ayant accès à des ressources qu'on n'a pas en ce moment, tu sais, en tout cas, je pense qu'il voulait pas mettre le blanc pour la situation sur l'organisation, mais c'est clair que, quand tu as une structure en place qui fait en sorte que...
c'est plus de la prévention, finalement.
Ben, c'est plus... Mais ça crée un environnement où c'est comme... Quand l'organisation est capable de dire, OK, votre santé mentale est importante pour nous et ça doit être important pour vous aussi. Alors, voici ce que nous, on fait. Mais de votre part, on a besoin que tu sois capable d'avouer que tu as besoin de cette aide-là. Et c'est ça que je pense que Jonathan, il réalisait pas, c'est que ça dénie, le déni qu'il faisait sur ses propres problèmes ou son propre santé, était peut-être à cause du fait que c'est pas quelque chose qui est nécessairement, avoué, c'est pas le bon mot, mais reconnu comme un problème légitime. Il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui n'aurait pas des thérapeutes et pas des gars pour prendre soin des joueurs physiquement. T'sais, ça, c'est certain que ces gars-là vont être là parce que c'est reconnu que si t'as mal à ton cheville ou ton épaule ou ton genou, que tu ne devrais pas jouer puis tu devrais te faire soigner. Alors, quand ces ressources-là n'existent pas pour la santé mentale, le message indirect que ça envoie, c'est que la santé mentale, c'est ta responsabilité à toi. C'est pas notre responsabilité. Alors, je pense que le Canadien, en faisant ça, va peut-être changer cette culture-là pour dire, écoute, on va prendre soin de ton corps, mais on va prendre soin de ton santé mentale aussi, parce que c'est important pour nous que vous soyez bien. Alors, on va mettre en place ces choses-là, puis c'est une bonne chose.
Mais tu sais, le nombre de fois où, dans le sport athlétique, on a jasé, toi et moi, d'innovation, puis on a souhaité que le Canadien fasse preuve d'innovation, mais ça, c'en est un bon exemple.
Ouais.
Et puis, tu sais, quand il y a des... Quand tu vas... Tu développes des idées qui sont originales, qui sont d'avant-garde, puis qui disent de quelle manière on peut s'y prendre pour que nos joueurs soient mieux, soient plus heureux et performent mieux, ça en fait partie. Alors, bravo à Jeff Molson pour ça. L'autre, tu mentionnais, l'autre facteur, c'est donc être plus inclusif ou avoir une meilleure diversité au sein de l'état-major. Donc c'est ça peut être au niveau des minorités visibles, ça pourrait être au niveau d'embaucher des femmes. Je sais pas, je serais curieux de voir si ça va se rendre jusque un critère d'embauche pour un directeur général. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être considéré pour d'autres postes ou bien on va vraiment en faire une priorité en disant ben, dans la recherche de notre futur DG là, on va mettre le paramètre de la diversité. On va tenir ça, on va en prendre. Voyons, vas-tu finir par faire ma phrase? On va en tenir compte de manière plus claire, puis on va en faire une priorité. T'sais. Alors, parce que si c'est le cas, ben là, à ce moment-là, il faut peut-être regarder aussi élargir les horizons, élargir les cadres, puis se dire, ben, il y a peut-être, il y a sûrement des femmes qui sont compétentes, qui pourraient peut-être se montrer intéressées par ce poste-là. Il y a Scott Mellenby qui a quitté lui aussi. Il va y avoir un assistant directeur général qui va devoir être remplacé. C'est peut-être une bonne opportunité là aussi. C'est ça, puis aussi pour des gens de hockey, des gens de couleur, il y en a plusieurs dans le monde du hockey qui n'attendent que leur chance de se faire valoir également. Je sais que Jeff Molson, l'année dernière, en avait parlé en juin 2020. Ça ressemblait un peu plus à un vœu pieux qu'autre chose en disant, oh, en passant, on va faire un effort pour faire des embauches au point de vue de la diversité, mais là, encore là, il l'a ramené sur le tapis de manière beaucoup plus affirmée, de beaucoup plus proactive. Puis je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va avoir le reflet au sein de l'état-major de l'équipe.
Oui, mais dans le fond, ça aussi, ça reste à voir. Là. Moi, je ne sais pas si nécessairement ça va... Mais j'espère. En fait, j'espère qu'ils vont inclure des personnes différentes, même s'ils ne sont pas... nécessairement des personnes de couleur ou des femmes, mais juste du monde que, tu sais, parce que déjà, ce qui arrive, tu sais, le poste du DG du Canadien sort ou est disponible, puis tout le monde qui sort des listes de candidats, c'est normal, tu sais, c'est ça que les médias font, c'est ça qui doit être fait, dans le fond, quand il y a un poste qui se libère. Moi, je serais intéressé que le Canadien se limite pas par ces listes-là, tu sais, qu'il se limite pas par le monde dans les gens dans le monde du hockey qui pourraient être des candidats. Je pense toi, tu l'as mentionné dans un de tes textes récemment, que le fait que Julien Brisebois n'était pas une de ces personnes-là. Quand il était engagé par le Canadien, il y avait un background en droit. Il a travaillé énormément fort pour devenir un bon candidat pour être un DG. Mais c'est quand même quelqu'un qui était super jeune quand il était engagé par le Canadien. Il est vraiment allumé, vraiment sharp. Mais c'est quelqu'un que c'était vraiment une question de circonstance où il s'est retrouvé dans l'état-major du Canadien. Mais il doit avoir plus de monde comme ça. T'sais, il doit avoir du monde comme ça et on les connaît pas. Alors, ça reste sur... C'est la responsabilité du Canadien et de Jeff Molson et de Jeff Gorton maintenant de trouver ce monde-là, de voir c'est qui existe. Parce que on parlait du bassin qui était un peu restreint. C'est aux Canadiens d'élargir ce bassin-là en regardant en dehors des pistes normales qu'on regarde pour ce poste-là, puis essayer de trouver cette personne-là qui pourrait être, tu sais, je ne veux pas dire le prochain Julien Brisebois, là, mais Mais c'est pas mal. C'est un peu ça. T'sais. C'est comme un gars, et pas juste pour dire le prochain candidat qui va devenir aussi bon que Julien Brisebois, mais la prochaine personne qui peut prendre la même voie que lui a pris. T'sais. C'est pas nécessairement ouais. avec les mêmes forces ou les mêmes capacités ou les mêmes expertises que lui, mais quelqu'un qui travaille dans un domaine qui l'aiderait dans un poste de gestionnaire d'un département hockey, que ça soit en droit, en finance, en plein de domaines, et aller chercher ces candidats
ou dans un
aussi.
Autre sport. Ou dans quelqu'un qui est déjà dans le
ouais,
sport.
C'est ça, absolument. T'sais, dans le football ou dans quelque chose. Comme parce que dans le fond, c'est... Je pense que les principes s'appliquent un peu de la même façon d'un sport à l'autre. C'est juste de connaître le sport, mais tu peux engager du monde qui connaît le sport. C'est, si tu veux quelqu'un qui est bon pour prendre des décisions puis pour gérer de l'information. Tu sais, c'est un peu ça, le poste oui. de DG, c'est gestion d'information. Alors, en espérant que le Canadien va prendre tout le temps nécessaire et qu'ils ne vont pas faire ça aussi vite que possible, comme Jeff Monson l'a dit lundi, ils vont prendre tout le temps nécessaire pour vraiment tenter le terrain puis trouver non seulement les candidats duquel tout le monde parle, les Darche et les Brière et même les Patrick Roy, si tu veux, ou peu importe, là, le monde qui sont sur toutes les listes en ce moment, mais va voir ailleurs. Va voir non seulement les Caroline Ouellet ou Daniel Goyette ou quoi que ce soit en termes de du monde dans le hockey qui sont pas des hommes blancs, là, on s'entend, mais même regarder en dehors du monde de hockey pour voir s'il y a des candidats qui existent qui pourraient non seulement servir le Canadien comme DG, mais être quelqu'un qui va s'introduire au monde de hockey puis qui va voir les choses d'une perspective différente puis donner un avantage aux Canadiens dans le fond d'avoir cette perspective-là dans leur état-major.
Tu sais, quand tu regardes, tu sais, je te disais, dans d'autres sports, les structures dans d'autres sports aussi au niveau de la direction sont bien différentes, puis il y a une évolution à ce niveau-là. Par exemple, dans au baseball, maintenant, le directeur général n'est pas... Il n'a pas nécessairement le rôle qu'il avait autrefois, puis tu regardes le profil aussi des directeurs généraux, puis même des présidents d'équipe. C'est plus des anciens joueurs systématiquement. Tandis que dans le hockey, c'est encore quelque chose qui est fermement ancré dans les façons de faire, parce que c'est... Il y a beaucoup de réseautage, il y a beaucoup de... on sait que c'est un gars d'équipe, alors on va lui faire confiance parce qu'il va monter son équipe. Alors, par osmose, ça finit un peu par qui connaît qui, puis tu sais, ça fait boule de neige, mais la manière dont le baseball a complètement changé son approche, puis va dénicher des fois des gars qui n'ont... C'est ça, qui n'ont pas d'expérience dans le baseball, mais qui sont des gestionnaires. Et puis ça, ça demeure... En bout de ligne, la chose la plus importante, c'est pas nécessairement d'être capable d'être le meilleur évaluateur de talent ou être le gars qui va être, qui va être capable de faire les discours les plus enflammés à l'équipe au début de la saison. C'est de quelle manière tu réussis à gérer ton monde, gérer ton produit, être capable d'être un bon négociateur et puis de comprendre, de donner une direction aussi. Là où tu t'en vas. Puis je pense que là-dessus, c'est là où le Canadien gagne le plus à pouvoir élargir ses cadres, mais je serais curieux de voir de quelle manière, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que le Canadien doit prendre son temps, puis que la présence de Jeff Gorton fait en sorte qu'il y a zéro urgence, du moins d'ici la fin de la saison. Je pense qu'à partir du moment où le calendrier finirait, tout ce qui va mener au prochain repêchage, ce serait important que le DG soit en place, mais d'ici ce temps-là, bien, qu'on fasse appel à des chasseurs de tête, puis qu'on essaie de ratisser le terrain le plus large possible pour soulever des pierres qu'au départ, on ne penserait pas soulever.
Mm-hmm.
Puis peut-être que... Et en fin de compte, peut-être que ça va ramener le Canadien, les dirigeants du Canadien vers une embauche qui est un peu plus conventionnelle puis qui ne sort pas complètement de nulle part en disant « C'est qui cette personne-là? » Mais sauf qu'en ayant passé en entrevue des gens auxquels on n'aurait pas pensé au départ, peut-être que ça va amener la réflexion ailleurs. Et ça aussi, je pense que c'est précieux dans ce contexte-là.
Oui, non, ben c'est ça. C'est exactement ça. Puis, en fond, juste en faisant des entrevues, même Jeff Gorton et Jeff Molson peuvent apprendre des choses. Même si le candidat n'est pas retenu, il y a des idées qui vont sortir. Tu sais, nous, on a fait Moi, on a fait des entrevues pour des postes athlétiques. Puis, dans mon cas, j'ai appris plein de choses de ces entrevues-là. Il y avait des idées que les candidats avaient. C'est un processus qui est quand même positif. Il y a une chance d'aller recueillir de l'information et des idées d'autant de monde que possible. Puis, c'est vraiment une opportunité pour le Canadien qui devrait saisir. J'aimerais juste terminer sur un autre sujet qui tombe à point, qui tombe avec l'arrivée de Jeff Gorton. Puis je pense que lundi soir, quand Brendan Gallagher a parlé après le match contre les Canucks, il a remarqué qu'il a déjà passé par des changements d'entraîneur et tout ça. Mais puis c'est à ce moment-là que ça a été frappant que toute la carrière de Brendan Gallagher était passée sous les ordres d'un DG. Il y a plusieurs gars dans cette équipe-là qui ont été amenés par Marc Bergevin. Et Marc Bergevin était super proche avec Brendan Gallagher, avec Jeff Petrie, Carey Price, beaucoup de monde sur cette équipe-là qui lui doit beaucoup. Là, Marc Bergevin n'est plus là. Alors, et la possibilité existe que le Canadien va passer par, comme on mentionnait avant, comme une reconstruction. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Alors, c'était la réponse de Brendan Gallagher quand il était demandé si ça serait quelque chose qui pourrait accepter que le Canadien va entamer un processus de reconstruction ou ça va être difficile pendant 1, 2, 3 ans. Et c'était quand même assez clair que c'est pas qu'il veut quitter le Canadien, mais si c'est le cas, comme lui a dit, il y avait des discussions qu'il fallait avoir. Ouais. Jeff Petrie a dit passablement la même chose aujourd'hui après l'entraînement. C'est pas quelque chose qu'il souhaite de partir de Montréal, mais un processus de reconstruction, il y aurait des choses à discuter. Et il y a Carey Price. Carey Price, on sait tous, il n'a pas gagné de Coupe Stanley encore. Il était probablement le plus proche à Marc Bergevin que tous les joueurs qu'on vient de nommer. C'est un gars qui a été lié à lui pendant toute la carrière de DG de Marc Bergevin, au moins, là, pas la carrière de Price. Mais pendant toutes les années de Bergevin, c'était un gars qui a été tissé tellement serré ou vraiment lié à lui, c'était Carey Price. Alors, comment vois-tu? Parce que même si ce n'est pas une reconstruction totale, je pense qu'une chose qui est claire, c'est que le Canadien doit alléger leur masse salariale d'une façon ou une autre. Peu importe si c'est complètement en échangeant tout le monde ou si c'est juste faire des petits échanges ici et là, c'est clair que la situation d'avoir autant de contrats à long terme qui durent au moins 3 ans après celui-là et avoir autant d'argent qui est engagé vers des joueurs qui ne seront pas des joueurs de premier plan quand l'équipe redevient compétitive ou devient compétitive, ça dépend de ta perspective. Qu'est-ce que tu penses va arriver avec ces trois gars-là en particulier, je pense c'est les cas les plus intéressants. Gallagher et Petrie sont en les premières années d'une prolongation de contrat. Carey Price lui reste 4 ans à 10,5 millions de dollars. Qu'est-ce qui peut arriver avec ces gars-là?
Écoute, je trouve que ces trois cas qui sont très différents. Petrie et Gallagher ont tous les deux signé de nouvelles ententes récemment en ayant en tête que l'équipe allait être compétitive, puis là, elle pourrait aller dans une autre direction. Gallagher donne des signes cette année de ralentissement. Et puis, ça peut être... Je trouve que dans son cas, si l'évaluation est faite que son impact en termes d'exemple qu'il donne sur la glace, en termes de leadership, en termes de façon de jouer qui est celle que le Canadien veut continuer de promouvoir. Si ces facteurs-là, qui se défendent tout à fait et qui pourraient justifier le fait de dire que coûte, on veut garder Gallagher, si ces critères-là ne suffisent pas à justifier sa présence à Montréal, puis qu'on dit, ben là, dans un contexte de reconstruction, avec son salaire, son âge, c'est normal qu'il s'en aille. Je pense que c'est un cas qui va devoir être réglé plus rapidement. Parce que, étant donné qu'il donne des signes de déclin, mais qu'il est encore un joueur qui a extrêmement bonne réputation dans la Ligue, je crois qu'il y a une fenêtre qui existe pour obtenir quelque chose en retour de ses services. Alors, dans son cas, si le plan est articulé et est suffisamment développé pour que lui puisse prendre une décision et dire « je suis à l'aise avec l'idée de lever ma clause de non-échange puis de pouvoir quitter Montréal », je pense que ce dossier-là deviendrait plus urgent. Celui de Petrie, les moins, parce qu'à mon sens, il a beau être plus vieux que Gallagher, je crois que dans son cas, sa mauvaise saison est clairement d'ordre mental. Et je pense que le Canadien va essayer de se donner du temps pour pouvoir faire en sorte que lui retrouve son jeu. Et avec son jeu qui reviendrait, qui retrouve sa pleine valeur aussi sur le marché. Parce que c'est un gars qui, peu importe son âge, et peu importe le fait qu'il reste encore, après cette année, trois autres années à son contrat de 6,25 millions par année, ça reste qu'un Jeff Petrie en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui a énormément de valeur sur le marché, puis c'est un gars qui n'importe quelle équipe voudrait avoir. Alors, je pense que le Canadien, dans son cas, même s'il souhaite avoir une reconstruction, ne devrait attendre que Petrie se replace. Est-ce que ça va être possible? Quel est l'échéancier? Je ne sais pas. Mais sauf que, à mon sens, il y aurait un ordre là-dedans. Le cas de Price, écoute, c'est le plus flou parce qu'on n'a aucune idée de ses intentions. Évidemment, lui, il tient toutes les cartes dans son jeu. Les équipes qui seraient potentiellement intéressées à ses services, en se disant, ben, on a vu l'été dernier de quoi Price, en pleine possession de ses moyens, est encore capable. Il a remis de l'ordre entre ses deux oreilles. On peut trouver le moyen d'aménager de l'espace salarial pour pouvoir accueillir son contrat. Les clients ne seront pas nombreux. Il y a plein de paramètres qui font en sorte qu'il est difficile à échanger. Sauf que jusqu'à maintenant, il y a plein de monde qui disait « Ouais, ben là, comment ça se fait que le Canadien, ils auraient dû échanger Carey Price en 2018 au moment du reset? » À partir du moment où tu as un DG qui tient mordicus à Carey Price et qui ne voulait rien savoir de l'échanger, puis un gardien de but qui a une clause de non-échange et qui ne veut rien savoir de s'en aller, ben là, tout scénario de fantaisiste de dire il faut l'échanger, ça, pour reprendre l'expression de Marc Bergevin, c'est du PlayStation. Là, la donne a changé parce que probablement que Jeff Gorton va voir les choses d'un autre œil et puis Price aussi. Alors, sauf que on est tellement loin, je pense, avec Price d'avoir d'avoir le doigt sur le pouls en ce qui le concerne, c'est difficile de savoir dans quelle direction il va aller. Sauf que quand je vois de la manière dont il a offert de se sacrifier pour le repêchage d'expansion, je trouve que ça donnait quand même un indice qu'à quelque part dans son esprit, il y avait une ouverture à ce que la suite de sa carrière se passe ailleurs qu'à Montréal. Puis peut-être que c'est là-dessus que Jeff Gorton va tabler pour dire « Voyons voir si quelque chose est possible » parce que la direction où on choisit de s'en aller ne lui donnera probablement pas de chance de Coupe Stanley d'ici à ce qu'on revienne compétitif.
Oui, en fait, je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est la situation de Price en ce moment. Écoute, moi, je pense qu'on est d'accord qu'on espère que Price va prendre tout le temps nécessaire avant de revenir à jouer. Mais disons qu'il revient mi-janvier. On va être comme conservatrice et ça lui donne une autre 6 semaines de préparation. Disons que ça arrive. Et disons que...
Je trouve pas ça conservateur. Je te trouve au contraire optimiste. Je trouve que c'est tôt.
Mi-janvier? Ouais. Ouais. 6 semaines? Ouais. Déjà, il patine en ce moment. Là. C'est, on patine. Que, ben, patine. Je sais pas. Okay. Je pense que 6 semaines, c'est... C'est pas mal de temps, là, mais on verra.
Okay, continue avec ton... Ouais.
S'il est capable de jouer, si Hockey Canada décide qu'il aimerait l'amener aux Olympiques puis qu'il leur donne, tu sais, au moins comme troisième gardien ou comme option, si jamais ça va pas devant le filet, ce qui est possible avec les candidats qui sont là comme gardiens et qui performent bien là-bas, il a la chance de jouer ou whatever. T'sais, la date limite des transactions, c'est le 21 mars. Et je dis ça juste parce que il y a une certaine réalité où si Jeff Gorton décide qu'on est mieux de garder une partie quand même assez importante du salaire de Price pour lui permettre d'aller gagner ailleurs ou d'aller compétitionner pour une Coupe Stanley. T'sais, je regarde les Oilers d'Edmonton en ce moment, là, ça va bien. Il joue bien, ils vont avoir une période creuse à un moment donné ou une autre, mais la grande faiblesse de cette équipe-là, c'est évidemment, c'est devant le filet. Je pense que, tu sais, il va y avoir des opportunités comme ça où il y a des équipes qui pensent être capables de remporter la Coupe Stanley cette année, mais tout ce qui leur manque, c'est un gardien. Alors, le contrat de Carey Price, même à 6,5 millions ou whatever, est quand même long, mais c'est un risque que je pense que certaines équipes vont être, disons, plus propices à prendre cette saison qui vont l'être en entre-saison, quand ils ont la tête froide, puis ils regardent toutes sortes de... Ils regardent plein de choses, puis il y a beaucoup de planification qui se passe. Quand tu planifies, il n'y a aucune façon de regarder le contrat de Price puis dire, oui, on devrait planifier pour prendre ce contrat-là. Mais quand tu es en plein milieu de une saison, tu vois une opportunité pour ton équipe, tu vois que l'équipe joue bien, puis qu'ils ont une chance légitime pour remporter la Coupe Stanley, mais ils ont une chance... Une bonne chance de le remporter si jamais tu es capable d'aller chercher un gardien comme Price pour aider. Ça pourrait être une discussion qui devient intéressante, non seulement pour le Canadien, mais pour Price aussi, qui veut absolument gagner une Coupe Stanley. Puis je pense que reconstruction ou non, le Canadien est quand même assez loin d'être capable d'avoir une équipe qui peut légitimement dire qu'ils sont un des 4-5 équipes qui pourraient gagner la Coupe Stanley dans une saison. Ça va prendre du temps. Et Carey Price, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste.
Non, puis ça, écoute, je me souviens, tu avais écrit, il te l'avait dit assez, assez clairement il y a 2 ans, là, avant le début de la saison.
Ben, c'est comme quoi, lui. Deux ans est passé depuis, puis il a passé à trois victoires de se rendre en été, mais tu sais, ça presse pour lui. Puis je suis convaincu que tu sais, ça serait une chose si le Canadien voulait se débarrasser de lui. Puis je pense pas que c'est nécessairement le cas. Tu sais, je pense que c'est, oui, ça aiderait le Canadien de libérer un certain montant de son salaire, c'est certain, mais ça aiderait Carey Price aussi d'être capable d'accomplir quelque chose qui lui tient vraiment à cœur aussi, là. Alors c'est probablement une conversation qui est loin dans l'avenir pour lui, parce qu'il y a d'autres choses à faire, puis il y a des choses beaucoup plus importantes à faire en ce moment. Mais c'est une discussion qui, je pense, qui va avoir lieu à un moment donné, j'en doute pas, en fait. Ça doit avoir lieu à un moment donné, parce que si Carey Price aimerait ça gagner quelque chose, je suis sûr que le Canadien va faire dans tout leur possible de lui accommoder pour ça aussi.
Là. Ben écoute, quand tu regardes, là, c'est clair que le changement, le départ de Marc Bergevin, le fait que Shea Weber soit plus avec l'équipe, il y a vraiment on a vraiment tourné la page sur toute une période du Canadien, puis probablement que lui va sentir que il fait partie de cette page qui se tourne là, puis c'est peut-être ça va rendre sa perspective différente par rapport à ce que c'était autrefois.
Mm-hmm.
Mais je vois quand même plusieurs éléments qui rendent la chose difficile. Tu dis la possibilité de retenir du salaire, je pense que c'est pratiquement un fait accompli que si le Canadien peut changer Carey Price, ça va impliquer d'une certaine manière.
Ça serait un minimum 4 millions, je pense, à mon avis.
Exact.
Il faut garder un minimum 4 millions.
Mais à la date limite des transactions, il y a combien d'équipes qui ont 6,5 millions de disponibles sous leur masse salariale, pas seulement pour la fin de l'année, parce qu'on ne parle pas seulement d'un gars qui est sur le point de devenir joueur autonome, mais qui peuvent se le permettre pour l'année suivante, et qui sont en même temps des équipes qui aspirent à la Coupe Stanley et qui en même temps sont des équipes à qui il manque un gardien de but. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que tu dises, ouais, mais là, pour rendre ça plus possible, il faut qu'il y ait un contrat qui revienne du côté du Canadien. Puis si tu dis, ben là, il y a un contrat plus onéreux qui revient en direction du Canadien, ben est-ce que ce joueur-là est un bon joueur? Puis si c'est un joueur qui est un bon joueur, est-ce que c'est pas faire un pas en arrière, un pas en avant, faire un pas en arrière en même temps pour cette organisation-là, d'aller chercher Price, mais de céder un atout? Exemple, là, je dis n'importe quoi, là. Mettons l'Avalanche du Colorado dit, ben nous, on pourrait perdre Darcy Kemper à la fin de l'année. On juge qu'on pourrait aller chercher, on pourrait s'améliorer avec un Price qui est en pleine possession de ses moyens, mais il va falloir qu'on liquide un salaire. Ils ne seront pas plus avancés s'ils doivent se priver de Nazem Kadri qui est en fin de contrat ou s'ils échangent Samuel Girard ou que ce soit. C'est des bons joueurs qui leur sont utiles dans la composition actuelle de l'équipe. Fait que je pense que ça prend vraiment un ensemble de critères qui tombent en place pour rendre cette transaction-là possible. Alors, pour ça, ça m'apparaît encore loin à l'heure actuelle. sait-on jamais? Tu mentionnes, tu sais, si Price revient et s'illustre aux Jeux olympiques, ça pourrait changer la donne. Mais encore faut-il que les joueurs de la Ligue nationale aillent aux Jeux olympiques, puis cette possibilité-là semble se réduire de jour en jour.
Oui, absolument. Mais tu vois, juste en prenant l'exemple de l'Avalanche du Colorado, disons que, juste pour que l'argent fonctionne, il dit, tu sais, OK, on va t'échanger Kemper, puis on va t'échanger Ryan Murray, qui a 2 millions de dollars, puis c'est un gars qui est joueur autonome à la fin de la saison. Ouais. Là, tu es rendu à 5,5 millions. Puis Price serait, disons, 6,5 ou 6. Alors, ouais, t'es quand même dans les eaux. Ceci étant dit,
ouais,
l'Avalanche, en ce moment, sont projetés d'avoir 24 309 $ en dessous du plafond salarial. Alors, c'est compliqué, tu sais. Mais à Edmonton aussi, tu sais, il y a Koskinen qui gagne 4,5. Alors, tu sais, c'est déjà... Puis il y a 33 ans, c'est hallucinant à quel point c'était mauvais ce contrat-là. Mais en tout cas, puis il va devenir autonome aussi à la fin de la saison. Ouais. Puis, tu sais, alors là, déjà, t'es rendu comme à 2 millions de rendre ça money in, money out. Tu sais, c'est comme... Alors, ça pourrait se faire, peut-être. Tu sais, c'est pas impossible. Il y a aussi Oscar Clefbaum qui est sur LTIR à Edmonton, puis il va l'être pour peut-être longtemps aussi, là. On sait jamais. Alors, tu sais, il y a quand même des chances si le Canadien garde 4,5 millions de dollars sur Price pendant les 4 prochaines années. Ça pourrait se faire, puis ça serait intéressant pour lui, là. Honnêtement, c'est... Parce que je pense que la réplique de Gallagher... Tu sais, je me sentais mal, en fait. Je me suis excusé d'avoir demandé, parce que c'est pas le genre de question que tu demandes après un match, tu sais. Puis il venait de perdre contre une équipe qui est pitoyable, tu sais. C'est comme... C'est vraiment les bas-fonds de l'équipe en termes de compétition sur glace, là. Tu sais, c'est comme... Dans l'espace de 24 heures, le DG était congédié. Jeff Molson est sorti pour dire qu'il y a un fresh start et que tout va être nouveau, puis qu'on recommence à neuf, puis tu joues contre l'équipe qui est en compétition avec toi pour être le plus grand désastre de la Ligue, et tu perds contre cette équipe-là, puis là, t'as un journaliste qui te demande sur ton avenir avec l'équipe, puis si tu peux, si tu peux vivre avec une reconstruction. Mais Gallagher, il a compris la question, premièrement, puis tu sais, c'est quelque chose que... Mais le fait qu'il n'avait pas pensé à ça... Je pense que c'est quelque chose... ces gars-là, il va falloir qu'ils pensent. T'sais. Même Ben Chiarot a été demandé hier, après l'entraînement, son avenir, parce que lui, c'est certain qu'il va être échangé avant le 21 mars, même si lui ne voulait pas l'admettre. Mais, tu sais, c'est... Alors, pour des gars comme Gallagher, qui et Petrie en particulier, qui vient de signer des contrats, qui vient de s'engager à cette équipe-là, à cette ville-là, en pensant que ça leur donnait une chance de gagner... là, je pense que la réalisation devient quand même assez vive, là. C'est vraiment quelque chose qui devrait être évident que non, c'est pas ma meilleure chance de gagner, c'est pas à Montréal nécessairement, au moins dans le court terme, dans les 2-3 prochaines années où chacun de ces joueurs-là vont être quand même avoir le potentiel de des joueurs d'impact, même si les deux, on s'entend, ont l'air d'entamer un déclin en ce moment.
Ouais. Ben, écoute, puis tout ça, tu peux pas non plus être complètement ficelé et déterminé avant que le directeur général entre en fonction. Fait que ça va être... C'est des décisions énormes, parce qu'il y a des décisions, tu sais, du déplacement de contrat, des gros joueurs qui s'en vont, mais c'est aussi toute la philosophie de ton entreprise, le type de joueur que tu entends garder. Est-ce que tu considères que c'est important pour la culture de ton équipe de garder un certain type de joueur pour favoriser le développement des plus jeunes sur qui tu vas miser? C'est énormément de pain sur la planche qui attend Jeff Gorton et le futur DG. Mais je pense qu'on rentre dans une période très fascinante de l'histoire du Canadien. Après presque 10 ans de régime de Marc Bergevin, on a un nouveau départ. Je pense que c'est ce que souhaite Jeff Molson, c'est ce que souhaitent les partisans aussi. Et puis, à la lumière des gestes qui vont être posés prochainement, c'est ce à quoi on va assister, dis-je. Écoute, là-dessus, Harpin, on va, euh, On va prendre congé de notre micro. Je te remercie beaucoup d'avoir, d'avoir fait comme chaque semaine et de nous avoir partagé tes opinions. Tout le monde, c'est merci d'avoir été là. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à athletic.com, on vous invite à le faire en allant au athletic.com/supportathletic. Ça vous donne un rabais sur la première année de votre abonnement. Donc, c'est simplement pour les auditeurs du Support Athlétique. Alors, allez au athletic.com/supportathletic. Beaucoup, beaucoup de matériel. Évidemment, il y a eu beaucoup de matériel entourant le Canadien, les textes de Harpin, les miens, ceux de Pierre Lebrun, etc. Et on couvre toutes les équipes, pratiquement toutes les équipes de sport professionnel en Amérique, plus la Premier League. Alors, ça vaut vraiment la peine de vous abonner. On vous invite à le faire. Et d'ici là, on vous retrouve la semaine prochaine pour The Athletic Support en anglais. Je ne pense pas qu'il va y avoir un autre congédiement de directeur général d'ici ce temps-là. Harpin, à bientôt.
Salut. Bye bye tout le monde.